Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Pour commencer, Sandra va nous lire Marc, chapitre 12, versets 35 à 40.
Pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, Jésus demanda : comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie doit être un descendant de David ? David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a déclaré : le Seigneur a dit à mon Seigneur : viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David lui-même appelle le Messie Seigneur, comment celui-ci peut-il être son descendant ? Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Il disait dans son enseignement : gardez-vous des spécialistes de la loi. Ils aiment à parader en costume de cérémonie, être salués sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère.
Merci Sandra. À présent, Alain nous rejoint sur le plateau pour nous aider à comprendre le texte que nous venons d'écouter. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Alain, rappelez-nous pour commencer le contexte de ces versets.
Bien sûr. Jésus, accompagné par ses disciples, s'est rendu à Jérusalem pour y fêter la Pâque. Il enseigne alors aux foules rassemblées dans les cours du temple. Quelques jours plus tard, nous le savons, il sera condamné à mourir sur une croix. Alors qu'il enseignait, plusieurs chefs religieux sont venus pour lui poser des questions. À vrai dire, il s'agissait de questions pièges car il cherchait un motif pour le conduire devant un tribunal. Alors que ses chefs semblent avoir épuisé toutes leurs questions, comme nous venons de le lire, Jésus à son tour en pose une. Puis il met les foules en garde contre l'attitude de ses chefs.
En effet, le texte se divise facilement en deux parties. Commençons avec la première. Quelle question Jésus pose-t-il et à qui s'adresse-t-il ?
Jésus s'adresse à la foule. La question qu'il pose est conçue pour faire réfléchir et pour remettre en question l'enseignement des chefs religieux. En fait, Jésus va introduire une notion très surprenante.
Laquelle ?
Il faut suivre son raisonnement jusqu'à sa conclusion. Les spécialistes de la loi avaient interprété les Écritures ainsi. Le Messie, c'est-à-dire le roi sauveur promis par Dieu, sera un descendant de la lignée du roi David.
Oui, les Juifs de l'époque attendaient impatiemment ce roi par excellence, qui serait un fils de David.
Oui, mais Jésus cite un psaume écrit par le roi David, où ce dernier s'adresse à un roi encore plus important que lui. Jésus suggère que ce roi-là est le Messie, et qu'il existait donc déjà du vivant de David.
Que conclure de ces propos énigmatiques ?
Jésus laisse la question en suspens. Il ne donne pas de réponse claire. Il veut semer une idée extraordinaire. Le roi serviteur promis est à la fois divin et humain. Il est Dieu devenu homme pour sauver et régner. Ne l'oubliez pas, Jésus n'a pas inventé ses propos. Non, son raisonnement s'appuie sur les Écritures. Le roi David s'adressait au Dieu souverain qui allait venir revêtu d'humanité pour être le serviteur, le rédempteur et le sauveur.
Et qui est ce Messie ?
Jésus a parcouru le pays d'Israël pendant 3 ans. Il a laissé lors de ses déplacements beaucoup d'indices suggérant qu'il est le roi sauveur promis. Beaucoup de gens ont mis leur espérance en lui, croyant fermement qu'il est ce Messie. D'autres toutefois se sont opposés à lui, l'accusant de blasphémer. Nous sommes bien sûr persuadés que Jésus est bien le roi sauveur. Il est devenu notre sauveur par sa mort sur la croix. Là, il a porté nos fautes et nous a libérés de toute condamnation. De plus, par sa résurrection, Jésus prouve qu'il est roi, le souverain de l'univers. À présent, il revient à chacun de décider s'il va mettre son espoir et sa confiance en Jésus le sauveur et se soumettre à lui en tant que roi. En découvrant Jésus à travers nos études sur l'évangile de Marc, nous espérons que vous avez compris qu'il est réellement Dieu avec nous, qu'il est digne de notre foi et de notre obéissance.
Merci Alain. À présent, nous allons réfléchir sur la deuxième partie du texte lu en début d'émission. Jésus met les foules en garde contre l'attitude des chefs religieux et ses paroles sont assez dures.
Oui, il convient de les réécouter.
Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. Il disait dans son enseignement « Gardez-vous des spécialistes de la loi. Ils aiment à parader en costume de cérémonie, être salués sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. »
Jésus dénonce donc tout chef religieux pour qui l'apparence est primordiale, alors qu'une vie sombre se cache derrière leur façade pieuse.
Voici un problème rencontré à l'époque de Jésus, mais même de nos jours. Les églises ne sont pas forcément à l'abri de telles personnes.
Vous avez raison, Yann. Certaines personnes attachent trop d'importance à leur apparence. Elles veulent être bien vues de tous et font beaucoup pour soigner leur image et réputation. Jésus dénonce surtout les actes de piété et les œuvres entreprises davantage pour attirer les regards des autres que par vrais soucis spirituels. Malheureusement, une belle apparence ne reflète pas forcément un cœur sincère et intègre. Cependant, il y a pire encore, car Jésus affirme que certains de ces chefs religieux abusent de leur position d'influence et de leur pouvoir pour profiter financièrement des personnes vulnérables. Apparemment, certains de ces chefs obligeaient des veuves à vendre leurs biens pour en récolter les bénéfices.
Donc tout le monde pensait du bien de ces chefs, alors que dans le secret, ils pratiquaient l'injustice et la corruption. C'est très grave.
C'est exact, Yann. Jésus condamne de telles pratiques, et ses propos représentent un avertissement pour nous aussi. Les pasteurs et les prêtres sont généralement bien considérés dans la société. Ils détiennent des positions de confiance et en raison de leur ministère, ils ont facilement des contacts avec des personnes en situation vulnérable. Les veuves et les femmes divorcées, les enfants et les orphelins, entre autres. Malheureusement, certains abusent de ces relations de confiance pour profiter de la vulnérabilité de ces personnes à des fins personnelles. Ces abus peuvent être de nature sexuelle ou financière. Parfois, les victimes ne réalisent même pas qu'elles sont exploitées. Surtout si les actions de ces gens sont revêtues de justifications prophétiques ou d'interprétations tordues des Écritures. Parfois même, les victimes ont trop peur de parler et pensent qu'on ne les croira jamais, ou elles ont peur des répercussions de ces gens influents ou puissants.
Vous évoquez un sujet assez sombre et délicat. Ces réalités existent. Elles engendrent la souffrance et déshonorent Dieu. Que voulez-vous ajouter?
J'appelle chacun à s'examiner. Résistez-vous quand confronté à la tentation? Êtes-vous vigilant et rejetez-vous le péché? Jésus est parfaitement juste. Bientôt, il reviendra en juge. Face à cette vérité, j'appelle ceux et celles qui sont coupables de ces abus à la repentance. Je rappelle aux victimes que Jésus est de votre côté. Il voit ce que vous subissez et il entend vos cris. Il redressera le tort et il interviendra en votre faveur. Il est celui qui peut guérir les cœurs brisés. Il peut aussi donner le courage et la sagesse pour dénoncer les abus et travailler pour la justice et la réconciliation.
Merci Alain. Oui, Jésus est le roi sauveur. Les malfaiteurs devraient craindre sa justice et changer de comportement, car un jour ils se tiendront devant le Dieu saint et ils devront rendre compte de leurs actes. Les victimes, quant à elles, peuvent avec confiance mettre leur espérance en lui. Il est compatissant et puissant. En son temps, il se lèvera et on verra sa délivrance.
Merci Yann. Je vous dis à la prochaine et au revoir à tous.
Merci. Pour donner suite aux propos d'Alain, Sandra va nous lire le psaume 146. Et ensuite, Philippe nous fera part de ses réflexions.
Louez l'Éternel. Que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tant que je serai sur terre. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel.
Ce psaume nous confronte à la question : qui est digne de confiance et vers qui se tourner pour trouver le salut ? Beaucoup s'imaginent que le secours et la protection se trouvent auprès des puissants de ce monde, auprès des personnes importantes et influentes. Malheureusement, ces personnes peuvent nous décevoir, car trop souvent, elles apportent leur aide seulement si elles y trouvent un intérêt personnel. Trop souvent, elles espèrent un pot de vin avant d'exercer leur influence en notre faveur. La corruption est très répandue. Parfois aussi, les gens influents profitent de la faiblesse et de la vulnérabilité des autres pour les manipuler ou les exploiter. Nous pouvons citer la prostitution, le trafic d'enfants, les vendeurs de drogue et les recruteurs pour les milices rebelles comme exemple. Non, trop souvent, les gens influents et puissants ne sont pas dignes de confiance. Ce psaume nous met en garde contre ces personnes et nous encourage au contraire à mettre notre foi et notre espérance en l'Éternel Dieu. Nous pouvons nous tourner vers lui en toute confiance. Le psaume fait une liste des personnes qui peuvent se trouver en situation difficile et vulnérable, car étant marginalisées. Il s'agit des démunis, des étrangers, des veuves et des orphelins, de personnes souffrant d'un handicap, de gens opprimés. L'auteur du psaume déclare que Dieu leur apporte son soutien et son secours, qu'il intervient en leur faveur et que de plus, il contrecarre les projets des méchants. Tout au long de l'histoire, Dieu a prouvé son amour et sa compassion envers son peuple. Il est infiniment plus puissant que les grands de ce monde. Il surpasse les gens influents de ce monde. Mais surtout, il exerce sa puissance et son influence pour servir, pour soutenir et pour sauver. Oui, mettez votre espérance en lui. Lui seul en est digne.
Merci Philippe pour cette exhortation rassurante. C'est ainsi que nous terminons notre émission. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous retrouver bientôt lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.